Europe 1 13h.
De 13h à 14h avec Céline Géraud sur Europe 1. Céline, on vous retrouve entourée aujourd'hui de Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, l'essayiste et écrivain Paul Melun. Et pour évoquer la disparition de Philippe de Gaulle, Catherine est avec vous.
Oui, joli plateau. Merci à tous d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. 13h21, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 14h. Et comme chaque jour, on va décortiquer l'actualité qui est très riche. Hein. Après la Corse, la Bretagne, qui réclame plus d'autonomie. Sciences Po à la dérive, la guerre école publique, école privée, le nouveau coup de pression aussi de Vladimir Poutine. Mais évidemment, là tout de suite, j'aimerais vous entendre sur cette disparition. Hein. L'amiral Philippe de Gaulle s'est donc éteint la nuit dernière à l'âge de 102 ans. Catherine Ney, vous aviez eu la chance de le rencontrer hein, il y a peu. Hein. C'était le 13 novembre 2022 pour le Journal du Dimanche. Ce papier hein, que j'ai relu avec beaucoup de plaisir, Philippe de Gaulle, la DER des DER, on y trouve évidemment plein d'informations et notamment cette citation de Churchill: à l'ombre d'un grand chêne, les jeunes plants ne reçoivent pas assez de soleil.
C'était le fils Churchill qui d'ailleurs... Le père ne l'avait si peu regardé qu'il s'était suicidé. Et l'amiral de Gaulle aimait à dire « Voyez, moi, je ne me suis pas suicidé ». Mais disant cela, et c'est lui qui m'avait cité l'exemple du fils, c'était pour montrer que quand on est le fils de Gaulle, c'est pas facile. Alors, il vouait à son père, évidemment, un culte ébloui, mais harassé. Parce que, d'abord, et un peu frustré, parce qu'il avait été le fils de Gaulle, il n'a pas été compagnon de la Libération, alors qu'il était arrivé le premier. Et d'ailleurs, s'il avait été compagnon de la Libération, comme le dernier aurait été enterré dans la crypte, c'est lui qui aurait dû être au Mont-Valérien, vous voyez.
C'est l'un de ses grands regrets.
Mais oui, c'est pas ça, parce qu'il dit, moi, je voulais être enterré avec ma femme à Colombey, dans notre caveau, à côté des parents. Enfin, je ne sais pas si c'était son souhait d'être dans la crypte, mais c'est de n'avoir pas été reconnu par son père qui ne lui a rien donné. Puis en plus, c'est vrai que du temps du général de Gaulle, quand on parlait de l'amiral qui avait fait carrière militaire, la navale, ce qui est quand même le haut du panier de l'armée, on le considérait un peu comme un crétin. Quand on l'appelait Sosthène, alors on ne sait pas si c'était le canard enchaîné. Oui. Alors je me demandais, ça voulait dire, c'était la pièce de Maupassant, mon oncle Sosthène, dont l'auteur disait lui-même que c'était un libre penseur idiot. Donc c'était en tous les cas pas un compliment. Donc ça, il en a souffert.
Mais pourquoi son père ne voulait pas qu'il soit compagnon de la Libération?
Parce que pas de favoritisme, pas de népotisme. D'ailleurs, ce matin, le fils de l'amiral rappelait que son grand-père avait créé le mérite, enfin je ne sais pas quelle autre croix, il ne l'a jamais donné. En revanche, il avait fait une très belle guerre, et c'est le général de Clercq qui l'avait décoré de la croix de guerre, ce qui n'était pas rien. Et alors, vous voyez, il vient d'écrire ses derniers souvenirs. Alors, c'est un livre dans lequel, au dernier moment, on lui dit qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Et bien, il revient sur le fait de ne pas avoir été compagnon de la Libération et d'un père qui, voilà, le traitait autre chose. Et surtout, d'avoir fait une guerre extraordinaire, d'avoir failli mourir plusieurs fois. Et quand il est rentré de la guerre, il avait 24 ans, il a été accueilli par ses parents qui ne lui ont posé aucune question. C'est-à-dire donc, on n'interrompait pas et on n'essayait pas de créer la conversation quand vous n'étiez pas questionné. Mais vous voyez, c'était des parents et il a beaucoup souffert d'avoir une mère qui était totalement indifférente, pas du tout maternelle, qui n'aimait que le grand homme et personne d'autre.
Catherine Ney avec nous en direct dans le studio d'Europe 1 13h et on revient sur la disparition de Philippe de Gaulle ce matin. Charlotte Dornelas, toute la classe politique se réclame du général de Gaulle, mais où en est le gaullisme aujourd'hui? Que reste-t-il?
Voilà, vous avez 4 heures.
Vous avez 4 heures.
Allez-y. Bonne question.
Non, mais c'est vrai que c'est une question extrêmement difficile. D'abord, pour une raison simple, c'est que le général de Gaulle appartenait aussi à son époque, à une époque marquée quand même par des défis et la gravité de la situation, et qu'il est difficile de faire parler le général aujourd'hui avec une situation extrêmement différente, une évolution de la vie politique, des partis politiques. Donc, essayer de le caler ici ou là aujourd'hui, ce serait à mon avis déjà compliqué et sujet évidemment à mille contradictions et discussions. Mais simplement, son fils, hein, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, il donnait une définition du gaullisme que j'ai retrouvée. Il disait: c'est le sens moral de la nation et la constante des valeurs françaises de tous les temps.
Oui.
Je pense qu'en effet, c'est une règle de base, mais qui est discutée aujourd'hui, donc qui est peut-être appartenait elle aussi à une époque. D'ailleurs, ce que vous racontez, même sur le fait qu'il revienne de la guerre et que ses parents ne lui posent pas une question, c'est évidemment propre propre à une famille, mais aussi à une époque. On voit toute une époque de pudeur absolue et parfois même difficilement compréhensible pour nous, très injuste pour le français dévoué qu'il a été au moins autant que son père en réalité dans sa carrière à lui. Mais voilà, je pense que cette définition est déjà une belle définition et qui est déjà un combat aujourd'hui, donc qui me semble être une bonne base, on va dire.
Paul Melun, général de Gaulle, qui disait aussi « La gauche me critique, mais elle se réclamera de moi ».
Oui, on en est un petit peu là aujourd'hui. Encore que vous observerez que dans le paysage politique aujourd'hui, les symboles sont disputés de tous, que les références à l'histoire sont parfois un peu maladroites. En témoigne ce qu'avait dit Valéry Ayer sur Chamberlain et sur Daladier. Donc, vous voyez, tout ça est extrêmement complexe et je rejoins ce qu'a dit Charlotte. Pour ce qui est de l'amiral, effectivement, il a eu une vie hors du commun et il y a une partie de sa personnalité qui est moins connue, c'est cette personnalité aussi d'illustrateur, d'artiste. Hein, les sauveteurs en mer, c'est lui qui avait fait le design de l'image, etc. Il a énormément peint, il a sculpté, il y a de la céramique. Donc, si vous voulez, c'est infiniment complexe, c'est une personnalité compliquée. Et je trouve qu'avec lui, une page, effectivement, du gaullisme s'en va, se tourne. Et il avait peut-être en lui aussi une humilité toute gaullienne, finalement, dans son service à la France. C'est-à-dire qu'on sert la France avant de servir ses propres intérêts. Il y a une forme de grande valeur morale au gaullisme. Et je pense que par-delà les définitions conceptuelles, politiques qu'on peut donner du gaullisme, et peut-être qu'on s'accorde pas tous sur ces définitions-là, il y a beaucoup de citations, c'est très riche, donc c'est difficile de définir précisément les contours du gaullisme. En revanche, moralement, dans le service de l'État, dans le service de la nation, dans le service de la patrie, là, je pense qu'on peut avoir les contours du gaullisme et que l'amiral était profondément en lui-même gaulliste, évidemment, et que c'est aussi ça qui nous fait un peu de peine aujourd'hui.
Paul Melun, Charlotte Dornelas et Catherine Ney, grands témoins avec nous aujourd'hui. On reste ensemble dans quelques instants. On va continuer à évoquer la disparition de Philippe de Gaulle. Et on sera d'ailleurs avec le maire de Colombey-les-Deux-Églises, hein, puisque c'est une information Europe 1. L'amiral Philippe de Gaulle sera inhumé la semaine prochaine, enfin dans quelques heures, là-bas à Colombey-les-Deux-Églises. On aura quelques informations. À tout de suite sur Europe 1.
Céline Giraud vous accompagne et vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Europe 1 13h et Céline, vous revenez sur la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle avec Catherine Ney avec vous en studio et vos deux chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche et l'essayiste et écrivain Paul Melun.
Et avec vous, Catherine Ney, on le rappelle, hein, vous avez rencontré Philippe de Gaulle pour le Journal du Dimanche le 13 novembre 2022. Ce papier a retrouvé dans le Journal du Dimanche. Est-ce qu'il était engagé en politique et comment voyait-il les successeurs de son père à l'Élysée, Pompidou, Chirac?
Là, il a beaucoup aimé Jacques Chirac, il a été sénateur... de RPR, il allait dans toutes les manifestations, dans tous les... Il y avait ses fils, au fil, il avait un autre fils qui était député de Paris pendant un temps, donc c'était une famille qui a aussi voulu faire de la politique. Mais on le regardait un peu déjà comme une relique quand même, et il n'intervenait pas. Mais au Sénat, il était absolument présent, il y déjeunait tous les jours, enfin, il était... Mais je pense qu'il était surtout attelé à une tâche extraordinaire, c'est les archives du père, qu'il a lui-même trié, il en a apporté plus de 118 000 à la Bibliothèque nationale, et il a publié plus de 13 tomes de cahiers, de carnets, de son père. Enfin, c'est lui qui a fait ce travail,
oui,
de bénédictin,
ça, de mémoire,
que lui seul pouvait faire. Donc, il était totalement investi, parce qu'être le fils du général de Gaulle, c'est être appelé sans arrêt à inaugurer des stèles, des rues, aller faire des discours pour les anniversaires, sur les places, et à plus répondre aux gens qui disaient qu'en aurait pensé votre père, évidemment, il pouvait n'aurait pas pensé à sa place, mais c'était quelque chose qui, quelquefois, le harcelait, et c'était une vie qui n'était pas facile, et trouver que pour avoir mené cette vie-là, il n'en avait pas eu de récompense, enfin, côté parents, ni côté des politiques, il le prenait pour Sosthène, vous voyez. Oui. Donc, il a fait quand même une très belle carrière militaire, parce qu'il a été quand même l'amiral de toute la flotte atlantique. Et d'ailleurs, c'est à ce titre qu'il avait été reçu en Russie, par Brejnev, par les autres, évidemment, qui, non seulement parce qu'il avait son rôle d'amiral, mais parce qu'il était le fils d'eux, et ça, c'est sûr. Et là, il m'avait dit, parce que c'était le début de la guerre, il m'avait dit, mais il ne faut pas se séparer des Russes, ce sont des Européens, il ne faut pas ça. Mais alors qu'aurait dit de Gaulle aujourd'hui, où ça en est, ça, je n'en sais rien. Voilà. En tous les cas, il disait aussi de Macron, il dit c'est un jeune homme qui fait des expériences.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Il avait beaucoup d'humour.
Il
avait beaucoup d'humour.
Alors, dans son analyse de la droite, René Raymond classait le gaullisme comme un avatar du bonapartisme. Est-ce que le gaullisme est de droite, Charlotte Donnelas? Vous avez encore 4 heures.
Oui, c'est ça. Là, c'est un peu plus simple, je pense. Est-ce que le gaullisme est de droite philosophiquement? Alors, encore une fois, je m'écarte de l'échiquier et surtout de l'échiquier d'aujourd'hui pour classer De Gaulle, mais philosophiquement, et c'était inévitablement de droite. Oui, dans la tradition philosophique, même dans le rapport au catholicisme du père, en tout cas, le fils, je le connaissais pas aussi bien que le père, on va dire, et encore avec beaucoup d'humilité. Mais il est évident que ça transpire par tous les pores de ses écrits, de sa peau, de son engagement. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous ceux qui se réclament du gaullisme, on le voit encore récemment dans le dernier conflit, où c'est en réalité, c'est d'abord on ne garde de De Gaulle quand on se réfère au gaullisme, surtout pour accuser son adversaire en général, on ne garde que le De Gaulle de 1940 et de son appel du 18 juin qu'on aurait tous aimé faire à sa place, mais notons quand même avec beaucoup d'humilité qu'il était seul, et il était bien seul à l'époque. Or, on n'a pas une supériorité morale à tous les gens qui étaient ses contemporains, donc admirons son courage, essayons de voir les vertus qui ont poussé à ça aussi pour les alimenter chez nous, plutôt que d'essayer de se servir de De Gaulle pour accuser les gens d'en face toujours de la même chose. Parce que je note qu'aujourd'hui, on aurait du mal à s'y retrouver entre, par exemple, son rapport à l'Europe, le rapport d'ailleurs de son fils qui s'était opposé, par exemple, à Maastricht en 92. Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui dans la majorité, par exemple? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait de la question du rejet absolu et qui était signifié par son fils quand il s'était engagé en politique du socialisme, beaucoup plus largement que les personnes encore. Qu'est-ce qu'on fait de cette phrase de De Gaulle qui dit d'abord la France, ensuite l'État et enfin le droit, aujourd'hui où le droit régule absolument tout notre rapport et à la France et à l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a évidemment une substance chez De Gaulle, et aujourd'hui tous ceux qui se réclament du gaullisme, il y en a certains qui à mon avis seraient renvoyés quand même dans leur but assez rapidement si le général De Gaulle devait revenir ici. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer tous de voir ce que nous admirons collectivement, et ça c'est une bonne chose, qu'il y ait une admiration collective d'un homme et du courage au moment où il en fallait, et qu'on admire ça et qu'on le cultive dans l'éducation, notamment des futurs petits Français, enfin des Français actuels, mais qui seront demain aux décisionnaires, plutôt que d'essayer d'en faire une instrumentalisation, là pour le coup vraiment politique, qui est souvent assez caduque.
Paul Melun, le gaullisme de droite.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Charlotte sur le gaullisme de droite. Allez-y. Moi, je voudrais vous raconter aussi le De Gaulle de gauche, parce que je pense que c'est ça qui est fascinant avec
le gaullisme.
Alors racontez-nous,
je pense que ça va être le De Gaulle catholique en réalité, ce que vous appelez le...
Peut-être, alors effectivement, on peut mettre derrière la charité chrétienne, derrière toutes sortes de choses, des choses qui se rapprochent de la gauche, et même peut-être dans l'essence de la gauche, y a-t-il du catholicisme, je n'en sais rien. Mais en tout cas, De Gaulle avait une phrase extraordinaire, vous savez, quand il définissait, il disait « La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. Et en fait, De Gaulle faisait une merveilleuse synthèse. C'était pas une synthèse, si vous voulez, comme les hommes de la synthèse qu'on a eu après, ou comme Emmanuel Macron prétendrait la faire. Lui, c'était une synthèse parce qu'il mettait la France avant tout. Et il expliquait que toute personne qui se positionnait d'un camp, fut-il de droite ou fut-il de gauche, n'avait pas suffisamment compris la France dans son entièreté. Donc c'est un message à peine voilé à ceux qui aujourd'hui parlent d'union des droites ou d'union de la gauche. Moi je pense qu'il faut parler d'union patriotique, d'union des nationaux, parce que De Gaulle fait aussi dans d'autres textes la différence entre les nationaux et les nationalistes. Il se présente pas comme un nationaliste. Il dit le nationalisme c'est finalement une forme de haine de l'autre, par-delà les frontières, de considérer le voisin finalement comme un ennemi. Non, lui il est un national, c'est-à-dire qu'il est pour l'affirmation nationale, pour la puissance nationale. Et je pense que c'est un formidable appel à la souveraineté nationale, le gaullisme, tout en y adjoignant un certain nombre de valeurs. Et dans ces valeurs, effectivement, il y a des valeurs de charité, d'humanisme, des valeurs sociales. Quand il parle d'autodétermination après la décolonisation, etc., il y a ça aussi chez De Gaulle. Il y a quelque chose qui est tout sauf un impérialisme, tout sauf du bellicisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je serais très curieux d'avoir une authentique parole gaullienne, par exemple, sur le conflit russo-ukrainien. Parce qu'effectivement, où est la voie de la paix là-dedans. Et je pense que le gaullisme serait une voie de la paix.
Une disparition qui a évidemment touché tout particulièrement la ville de Colombey, les deux églises où il sera inhumé la semaine prochaine. On va écouter, Pascal Babouo est avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de la commune de Colombey, les deux églises. Alors évidemment, l'émotion est forte ce matin, mais c'est une page qui se tourne dans votre commune.
Exactement. Pour nous, c'est vrai qu'après le général, la génération d'après s'éteint aujourd'hui avec la disparition de l'amiral. C'était attendu, bien sûr, à 102 ans, c'est dans l'ordre des choses. Son caveau est prêt, et il est prêt à rejoindre son épouse Henriette, qui est décédée après, il y a un peu plus de 10 ans, pas tout à fait 10 ans, c'était au mois de juin. 2014. Et maintenant, on laisse la famille, bien évidemment, qu'on va essayer d'accompagner au mieux pour organiser ces cérémonies à Colombey qui seront toujours, je pense, comme ça a toujours été la tradition, très simple.
Merci beaucoup, Pascal Babouaud. Effectivement, on suivra cette inhumation, ces informations d'Europe 1. Donc, il sera enterré la semaine prochaine aux côtés de sa femme, Henriette. On a Jean-Régis qui nous appelle du côté de Franche-Comté. Bonjour, Jean-Régis.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct. Vous vouliez réagir à la disparition de Philippe de Gaulle?
Oui, une grande page se tourne. La famille de Gaulle, c'est l'amour de la France, l'indépendance de la France. Je pense, vous parliez tout à l'heure du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que le général, par exemple, aurait tout simplement clamé son indépendance. Il n'aurait pas apporté d'aide à l'Ukraine. Il aurait plutôt proposé une solution entre les deux belligérants. Et puis, c'est l'indépendance vis-à-vis des États-Unis également, en refusant l'entrée dans l'OTAN, quoi.
Merci Jean-Régis qui nous écoute en Franche-Comté. Raphaël aussi est avec nous, qui nous écoute en Auvergne. Bonjour Raphaël.
Bonjour, oui, moi je voulais réagir. Je disais, Catherine Ney, c'est ça même mieux que moi, c'est que le gaullisme politique, il est mort en 1970. Il n'y a pas un seul président de Pompidou à Macron qui peut se réclamer d'une once de gaullisme, c'est une évidence. Donc le fils incarnait ça en tant que militaire, il était une continuité familiale, si j'ose dire. Mais son poids politique n'a jamais été important, c'était très pesant pour lui d'être un De Gaulle. Par contre, c'est celui qui a le mieux écrit, on le dit peu, c'est celui qui a le mieux écrit sur le mandat de son père, sur les mandats de son père. C'est une mine ce qu'il a écrit. Et puis je voudrais juste finir en disant, on parle du conflit en Ukraine, ce qui est une certitude, c'est que Charles De Gaulle ne serait pas allé servir la soupe à Poutine et aurait fait certainement le cérémonial de la chaise vide. Ça, c'est une certitude.
Merci Raphaël. Alors je vous pose la question, du coup, Catherine, est-ce que le gaullisme est mort avec lui en 1970?
Ça voulait plus rien dire pour Jacques Chirac qui avait dit « Moi, j'ai jamais été gaulliste ». Il l'avait dit, il nous le disait au départ. Lui, il n'était pas de cette... était un vieux radical de famille et tout ça. Il est devenu pompidolien. Alors, est-ce que Georges Pompidou était... il était gaulliste à sa manière, parce que Georges Pompidou, il trouvait aussi qu'il a fini par se séparer du général. Et puis, il avait, qui avait fait la guerre, qui avait été lui aussi son disciple aimé du général de Gaulle. Mais il trouvait que, quelquefois, le général de Gaulle faisait des discours qui étaient un peu chimériques, utopistes. Et il disait, en tous les cas, que si la France voulait continuer à avoir ce message universel, continuer à faire entendre sa voix, il était absolument impératif qu'elle soit une puissance économique avec une industrie et qu'elle ne pouvait peser que si elle était une grande puissance économique. Sinon, elle ne pèserait pas. Donc, c'est très d'actualité aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que le général et lui, à la fin, n'étaient plus tout à fait sur la même longueur d'onde.
Eh bien, merci beaucoup Catherine Ney pour ce témoignage précieux. On remercie aussi beaucoup Pascal Babouaud, le maire de la commune de Colombey, les deux églises, qui était avec nous en direct il y a quelques instants. Merci à Raphaël et à Jean-Régis, nos deux auditeurs, Charlotte Dornelas et Paul Melun. Bien sûr, on reste ensemble, et vous, auditeurs d'Europe 1, parce qu'on va évidemment brosser d'autres sujets d'actualité, notamment Sciences Po, une institution qui part à la dérive. À tout de suite sur Europe 1.
Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud, que vous écoutez tous les jours de 13h à 14h. 14h sur Europe 1.